Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler dans Priorité Santé des médecins généralistes. Ils étaient près de 85 000 à exercer cette activité l'an dernier en France. Une profession plus féminine, puisque 65% des généralistes de moins de 40 ans sont aujourd'hui des femmes. Un métier qui vieillit aussi, puisque l'âge moyen chez les hommes qui exercent la médecine générale est de 55 ans. Parmi les problèmes que traverse aujourd'hui le système de santé français, reviennent deux questions essentielles qui concernent directement la médecine générale, devenue en 2005 une spécialité à part entière. La pénurie de médecins traitants et l'inégalité de répartition des professionnels de santé sur le territoire. Traduction concrète, plus de 10% des assurés n'ont pas de médecins traitants et certains départements recensent 6 fois plus de praticiens que d'autres. Pénurie qui entraîne l'éloignement, les retards de prise en charge, parfois une prévention et un suivi insatisfaisant. Au-delà de ces tendances, de ces chiffres, nous allons donner aujourd'hui la parole à plusieurs médecins généralistes, anciennes et nouvelles générations, Paris, banlieue, Alsace, République démocratique du Congo. Pourquoi s'engager dans cette médecine porte d'entrée vers toutes les autres? Comment les problèmes du quotidien et au-delà certains choix des autorités de santé peuvent peser sur la pratique? Et surtout, comment décrire le lien? Comment décrire le soin? Profession médecin généraliste, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Il manquerait pas moins de 6 000 médecins généralistes dans les régions rurales en France, zones surdotées, d'autres territoires désertés, où les collectivités locales tentent d'attirer les médecins à renfort de campagnes publicitaires. Le nombre de médecins va continuer de diminuer jusqu'en 2030. Numerus clausus oblige. Alors quel constat, quel sens donner à ce métier de généraliste? Avec nous en studio, docteur Bruno Front, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Paris, vous avez signé le livre « Toute une vie pour eux » publié chez l'Iconoclaste. Pour incarner en quelque sorte la jeune génération, la relève, on retrouve dans l'Est de la France, docteur Élise Frey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à Darmstadt en Alsace, où vous êtes, docteur Frey, présidente du syndicat des jeunes médecins généralistes remplaçants, jeunes universitaires et jeunes installés, réunis sous l'acronyme Réagir. On retrouvera au cours de cette émission à Mantes-la-Jolie, désert médical aux portes de Paris, le docteur Patrick Le Foulon, qui est médecin généraliste dans le quartier du Val-Fouré. Et puis en fin d'émission, on parlera sport, chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et auteur du livre « Le sport, je me lance » aux éditions InPress.
Priorité santé sur RFI.
Alors quand on lit ces souvenirs de consultation dans votre livre « Toute une vie pour eux », ces moments de partage qui sont aussi en quelque sorte des tranches de vie, on perçoit l'importance du lien, du temps, de la rencontre. Je voulais commencer par là avec vous, docteur Bruno Front. Vous employez l'expression « concentré d'humanité ». Vous exercez depuis combien d'années ?
Comme généraliste, depuis 1985, après avoir été au SAMU, puis aux urgences médicales de Paris pendant 3 ans.
Alors, ça fait donc, si mon calcul est bon, près de 40 ans. Est-ce que vous avez changé de valise, de sacoche pendant toutes ces années, ou est-ce que vous la gardez un petit peu comme un fétiche?
Oh ben, avec le temps, elle finit par...
Il y a l'usure.
Il y a l'usure, donc j'ai dû changer. Mais j'ai une petite affection quand même pour garder le plus longtemps possible cette sacoche.
Et Jose, vous avez changé en 40 ans de pratique?
Pardon?
Vous-même, vous avez changé en 40 ans de pratique?
Oh ben, évidemment, évidemment. Mais ce qui, je pense, est toujours là et que j'ai découvert à la pratique, c'est que la médecine générale, c'est un trépied, proximité, disponibilité, humanité.
La porte d'entrée, hein?
C'est la porte d'entrée, la proximité absolument, la disponibilité et l'humanité. Quand je dis humanité, je veux dire que ça concerne des êtres humains et qui s'engagent dans un échange, dans une relation.
C'est vrai qu'on remplit la feuille sur la sécurité sociale, maintenant la carte vitale. Il y a un numéro, hein, mais les gens ne sont pas des numéros. Il y a des gens que vous avez suivis pendant des années et des années.
Ah ben oui, évidemment, j'ai vu des gens naître... se marier, devenir parent. J'ai vu des gens être en pleine forme et avancer en âge et en maladie et mourir. Effectivement, c'est pas forcément très facile, mais ce n'est supportable que si on va jusqu'au bout.
Et on va jusqu'au bout en recevant, bien sûr, à son cabinet, mais pas seulement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans votre livre. Vous insistez là-dessus, en tant que médecin de famille, la visite, docteur Bruno Front, visite à domicile. Pourquoi, pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement important ?
J'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un se déshabille dans mon cabinet, même complètement, on n'a rien vu. Mais que quand on va au domicile, quand la personne vous ouvre la porte de sa maison, de son appartement, et encore plus sa chambre à coucher, c'est d'une toute autre intimité qu'il s'agit. Et c'est une découverte et de confiance qui nous est donnée. Et c'est très émouvant.
Et vous recevez, à cette occasion-là, vous recevez vous aussi beaucoup de choses.
Ah ben c'est pas que je reçois, je suis instruit, je suis animé, et ça nourrit ma curiosité et mon goût de connaître l'existence, puisque voir vivre tous ces gens-là, ça me pose évidemment énormément de questions pour moi-même.
Ça nous ramène au fameux « on ne soigne pas une maladie, on soigne des personnes ». Docteur Élise Frey, on vous retrouve dans l'Est de la France. Est-ce que vous en faites, vous, des visites à domicile ?
Oui, j'en fais beaucoup.
Et ça se passe comment ? C'est important pour vous ?
Ah oui, c'est très important. Il y a des plages dédiées. C'est beaucoup de personnes âgées, des gens qui sont en difficulté pour se déplacer. Et je rejoins mon confrère, c'est vrai, il y a une grande intimité dans les maisons. Des situations qu'on arrive aussi à mieux appréhender parce qu'on fait partie du domicile.
Ah, on a une petite coupure de réseau, hélas. J'espère qu'on va vous retrouver. Est-ce que vous êtes avec nous, docteur Frey ?
Je pense que oui.
Oui, vous êtes bien là. C'est vrai, vous évoquiez l'importance de ces visites à domicile à l'instant. Et en même temps, vous exercez dans un lieu très particulier puisqu'il s'agit du cabinet de votre ancien médecin traitant. Comment est-ce que ça s'est passé ?
Oui, alors ça, c'est parce que j'étais adolescente dans l'endroit où j'exerce maintenant. Ça s'est fait par hasard. J'ai fait mon internat dans une autre région et je suis rentrée. Et en fait, j'ai commencé à remplacer un ancien médecin qui était du secteur parce qu'il y avait des anciens patients qui m'avaient recommandé pour lui en disant « voilà, elle a fini ses études, si vous voulez, si vous cherchez une remplaçante, elle est disponible ». Et du coup, moi, je suis arrivée dans un coin que je connaissais adolescente, ça m'a plu. C'est en semi-rural et mon internat, je l'avais fait en zone rurale, donc ça a tout de suite matché et j'ai vu l'annonce de ma généraliste. Et je me suis dit, mais je connais ce cabinet, j'espère qu'il y a encore de la place. Et je l'ai appelée et elle m'a dit, oui, je ne trouve pas de remplaçante et ça se fait comme ça.
Alors, deux générations, docteur Élise Frey. Pour vous, la médecine générale, contrairement à votre confrère, docteur Bruno Front, c'était un choix de spécialité.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire des études plus longues et une approche peut-être un petit peu différente. Vous, quand vous avez fait ce choix, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir généraliste ?
Alors effectivement, il y a un internat qui existe maintenant pour nous depuis 2005, donc avec pour l'instant 3 ans. Moi, ce qui m'a motivée, c'est en fait le fait que les autres spécialités que je découvrais à l'hôpital pendant mon externat, en fait, je m'ennuyais au bout d'un mois, j'avoue. C'était trop répétitif pour moi de me concentrer sur un organe. Donc j'ai aimé les stages où je me concentrais soit sur différentes tranches d'âge, soit sur différents diagnostics, donc la gériatrie, les urgences, le moment où j'étais en pédiatrie ou bien chez le stage chez le praticien. Et quand je voyais la maquette de médecine générale, c'est-à-dire les 3 ans qu'on me réservait en choisissant ça, ça me correspondait.
Vous êtes dans la polyvalence.
C'est ça.
La polyvalence touche à tout. Docteur Bruno Front, on regarde dans le rétroviseur avec vous. Ce choix de la médecine générale, il vous est venu comment ?
Je le dis dans le livre, c'est par hasard. Mais c'est surtout, de la médecine, mais pour la médecine générale, c'est surtout la rencontre avec les personnes. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Quand quelqu'un se présente à vous, il vous dit « j'ai mal, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne suis pas bien ». Et à partir de ces mots, il s'agit de tirer un petit fil de la pelote et tout peut arriver, tout peut survenir. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Et on peut, à ce moment-là, orienter, comprendre, essayer d'appréhender la personne, la situation. Et c'est ça qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé, qui m'intéresse encore. C'est j'ai mal, je ne suis pas bien, je ne comprends pas ce qui m'arrive, et à partir de là, tout commence.
C'est vrai qu'au cours de cette émission, on va largement parler d'un certain nombre de problèmes qui concernent directement votre exercice, et la médecine générale en particulier, mais un point commun, quelque chose d'essentiel qui vous anime l'un comme l'autre, docteur Front, c'est l'engagement, la passion pour le métier, et une passion que finalement les années n'ont pas abîmée, n'ont pas érodée.
Ah oui. Ça, c'est tout à fait vrai. J'ai certains collègues médecins généralistes qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis encore très heureux de faire ça. C'est comme ça. Mais c'est surtout, je crois, parce que chaque jour est nouveau et j'ai voulu me dire que chaque jour, je devais rencontrer une personne un peu particulière, un diagnostic un peu particulier. Cette curiosité qui, finalement, n'est jamais assouvie.
Et encore d'inattendu, vous continuez d'exercer, alors que sur les papiers, en termes de cotisation, c'est d'actualité, vous pourriez vous arrêter, c'est ça ?
Ah ben, je suis à la retraite depuis 2 ans. Je continue à un mi-temps, enfin pas un mi-temps, oui, un mi-temps à 45 ou 50 heures par semaine. Et je cotise à la retraite sans bénéfice supplémentaire, mais je ne m'en plains pas. Ce que je veux dire, je pensais mon livre étant paru, j'arrêterais la médecine. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal parce que c'est quand même assez extraordinaire. Je veux dire à mes jeunes confrères, à mes jeunes consoeurs, qu'ils ont une chance formidable de s'engager dans ce métier, dans des conditions qui seront évidemment différentes, qui restent à inventer, mais il y a des contraintes, beaucoup de contraintes, mais on peut toujours être libre sous la contrainte.
Docteur Élise Frey, vous aussi, vraiment, ce métier que vous aimez énormément, même si on va le souligner, il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'améliorer, voire des choses qui sont difficilement acceptables. On entend malgré tout un discours sur l'air un peu du « c'était mieux avant ». C'est pas pareil pour la nouvelle génération, ils veulent faire moins d'heures, ils sont prêts à moins de disponibilité. Ce dévouement qui serait, je dis bien ça, moindre, la médecine ne serait plus un sacerdoce en quelque sorte. Vous pensez quoi de ce genre de réflexion ?
Je pense qu'en fait, dans mon cas, ce n'est pas vrai.
Vous êtes un démenti.
Oui, parce qu'en fait, contrairement parfois à certains de mes confrères, ce que je ne critique pas du tout, mais moi, c'est quand même la vocation qui m'a conduite là. Je veux dire, moi aussi, je fais ce métier par passion. Quand j'entendais Dr Front, je le rejoins complètement. Moi, c'est aussi le désir de mieux comprendre le corps, les angoisses, la société et le lien qu'on a les uns vers les autres qui me nourrit tous les jours. Et c'est pour ça que je suis allée en médecine aussi. Donc, c'est vrai qu'il a raison. On est toujours libre sous la contrainte quand on a ça, quand on a cette flamme. Donc, dans mon cas, malgré les déboires, les choses, non. Moi, le bilan que je tire chaque soir quand je rentre chez moi, c'est qu'il est positif. Mais je sais que je ne suis pas la seule... Je suis peut-être pas la majorité quand je dis ça. Moi, je pense qu'en fait, la disponibilité, ça, elle est peut-être différente aujourd'hui, mais elle existe. Moi aussi, quand je mets les 20 minutes à disposition de mes patients, je suis vraiment à fond avec eux. Je suis disponible à 200%. Donc, ça ne veut pas dire peut-être qu'on doit me réveiller à 2 heures du matin parce que j'habite juste à côté. Ce n'est pas le cas. Mais je sais que mes patients savent que quand je suis là, ils peuvent compter sur moi et qu'ils viennent. Donc, je pense qu'on peut se rendre disponible et s'engager dans un territoire sans forcément faire les mêmes horaires ou la même organisation. Mais la disponibilité émotionnelle et l'amour qu'on a pour nos patients, c'est le même.
Et pas de jugement. Votre vision, vous, docteur Bruno Front, sur ce que représente le métier pour la nouvelle génération. Peut-être aussi pas mal de jugements hâtifs sur... Je disais donc la vieille rengaine du « c'était mieux avant ».
Non, faut pas dire ça. De toute façon, la médecine telle que je l'ai pratiquée et les cabinets tels que nous étions, ça va changer, c'est fini. Donc tout est à inventer. Je suis très heureux d'entendre ma consoeur qui dit que oui, la disponibilité est là. Les jeunes veulent travailler moins. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Le tout, c'est que quand ils sont là, ils soient, j'emploie le mot, la présence. C'est ça qui est fondamental, être présent, ne serait-ce que quelques minutes d'ailleurs, de plonger dans la question du moment.
On n'expédie pas les gens.
Oui, mais ce n'est pas forcément une question de temps, c'est une question de présence. Et je crois que ma consoeur le dit très bien. Donc, on peut ne pas être disponible 24 heures sur 24. Moi, quand j'ai fait mon premier emplacement à la campagne, c'était 24 sur 24. Comme je le dis, j'ai pris la sage décision de travailler que 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est surréaliste. Et ils ont raison. Mais l'important, c'est qu'il y ait une présence. Et donc, il faut que ça soit un travail en équipe avec des gens qui ont bien conscience qu'au moment où ils travaillent, ils sont totalement présents et curieux de ce qui se passe.
Du temps de qualité. On va reprendre l'échange avec vous dans quelques minutes. Mais si vous le voulez bien, nous allons maintenant prendre la direction de l'ouest, du nord-ouest de Paris, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. C'est Mantes-la-Jolie. C'est dans cette ville bâtie sur les rives de la Seine, qui regroupe quartiers historiques, résidentiels et grands ensembles sortis de terre dans les années 60. Dans ce quartier du Val-Fouré de Mantes-la-Jolie, qu'on vous retrouve, docteur Patrick Le Foulon, bonjour.
Bonjour madame.
Le Val-Fouré où vous exercez avec votre associé qui est par ailleurs votre épouse. Une installation assez récente, docteur Le Foulon, après un départ en quelque sorte forcé d'un autre cabinet, d'un autre quartier. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Nous étions en vacances et nous venions d'arriver en voyage à l'étranger. Et lors d'une... en pleine nuit... le cabinet médical a pris feu. Le feu, semble-t-il, est parti du local d'à côté et s'est propagé à notre cabinet qui a été complètement détruit par l'incendie. Il nous a donc fallu nous réinstaller très rapidement. En l'espace de 2 mois, nous avions trouvé un local, du matériel pour nous réinstaller, pour ne pas laisser notre patientèle sans soins.
Et donc, vous vous êtes resté dans la zone, vous avez continué de travailler dans un quartier populaire, pourquoi ?
Alors, d'abord, à Mantes, les quartiers sont quasiment tous populaires. On est dans la grande banlieue parisienne.
Il y a encore un joli petit centre-ville qui résiste.
Oui, difficilement, avec des commerces qui sont en voie de disparition. Non, on est dans une région de banlieue, de grande banlieue. Avec des logements sociaux qui sont majoritaires. On a une majorité de logements sociaux. Donc, en face de ça, on a une population souvent d'origine immigrée et qui a des demandes un petit peu différentes de ce que l'on pourrait rencontrer dans des quartiers avec des niveaux socio-éducatifs supérieurs.
Alors, et vos patients, vous disiez, avaient besoin de vous. Ces patients, ils vous ont suivi d'une zone à l'autre de la ville ?
Oui, il y a à peu près 7 kilomètres entre notre ancien cabinet et notre nouveau cabinet. La pénurie d'offres de soins sur l'agglomération a fait qu'ils ont été obligés de nous suivre, même si beaucoup ne sont pas très contents qu'on ait quitté Mantes-la-Ville, qui est la commune d'à côté. Ils sont bien obligés de nous suivre parce que il n'y a plus de médecins généralistes. Il y a une telle pénurie de médecins que la patientèle a suivi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Patrick Le Foulon, à quoi ressemblent vos journées ? Par exemple, vous êtes médecin traitant pour combien de patients ?
Alors, j'ai une clientèle assez conséquente. J'ai 2500 patients. Mon épouse a une clientèle un peu moins, 1700 patients. Mais c'est quand même 2500 patients et 1700 patients. Donc nous commençons comme tout le monde à 8h le matin et on finit vers 19h le soir. On finit plus tôt maintenant parce que j'arrive à 65 ans et que j'essaye de ménager, mais ça fait quand même des journées de 11 heures.
Oui, c'est pas mal. Et du coup, avec ces 2500 patients, il reste de la place pour des nouveaux patients ou c'est toujours non maintenant quand on vous appelle ?
Bien sûr que c'est non. On ne peut pas prendre de nouveaux patients. C'est impossible. Toute la journée, je refuse des nouveaux patients, des gens qui cherchent des médecins traitants, des gens qui souhaitent qu'on les prenne en charge. Tous les jours, je refuse, c'est pas possible. Enfin, je vois pas comment je vais pouvoir prendre. On peut prendre de nouveaux patients. Je vous le dis, j'ai 65 ans. J'ai pas encore pris ma retraite comme mon confrère de tout à l'heure. Mais bon, j'en suis plus près que du début de ma carrière.
C'est évident, à 65 ans, on vous le souhaite en tout cas. Il n'y a plus de médecin traitant de libre. Et en même temps, on va dire que c'est la double peine. Parce qu'au niveau des urgences de l'hôpital de votre secteur, là aussi, c'est assez compliqué.
Ils sont submergés, comme probablement toutes les urgences de France et de Navarre. Et ils répondent de façon très imparfaite à la demande de soins. J'ai les pauvres, j'ai une certaine admiration pour ce qu'ils font aux urgences, parce que bah, ils travaillent dans des conditions déplorables, avec pas de lit d'amont, avec une pression de la part des patients qui est de plus en plus forte, et dans des conditions qui sont très très difficiles. Moi, je suis admiratif de ce que font les urgentistes à Mantes, comme dans toutes les urgences de France. C'est vraiment un travail qui doit forcer l'admiration, parce que c'est des conditions de travail qui sont très pénibles.
Extrêmement difficiles. Alors, vous, médecin généraliste, ça veut dire quoi pour vous? On parlait tout à l'heure de ces qualités requises, en tout cas des caractères communs qu'on a retrouvés chez les deux invités avec qui on échange depuis le début de l'émission, Dr Frey et Dr Front. Polyvalence, disponibilité, proximité, écoute, qu'est-ce qui vous vient d'autre à l'esprit?
Alors, d'abord, je...
Et la compétence hein, aussi, hein, quand même, hein, la compétence un petit peu. Hein.
Le mot sacerdoce me choque un peu, ça a été employé par mes deux confrères.
J'ai dit, est-ce que ça n'est plus le sacerdoce d'hier? C'est ça ce que j'ai dit.
C'est clair. Et le sacerdoce... Moi, je réserverais ça aux ecclésiastiques.
Non, mais c'est ça. En plus, c'est un terme religieux, donc c'est pas trop en général.
C'est un engagement, ça. C'est sûr que nous avons un engagement qui est soigner la population, soigner autrui, être au service de la population. C'est ça qui motive, qui me motive. En plus, moi, je suis dans un quartier populaire avec des gens qui nous sont reconnaissants de ce que l'on peut leur apporter. Donc c'est gratifiant pour nous de rendre service à la population.
C'est pas un sacrifice, c'est un échange.
Oui, c'est ça. Mais c'est absolument pas un sacerdoce.
J'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des situations où vous adressez vos patients, j'imagine forcément que oui, hein, vers un spécialiste, et comment ça se passe quand ils vous répondent « Docteur, je ne peux pas y aller parce que d'abord il y a trop d'attente peut-être, parce que c'est loin, ou parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas d'assurance complémentaire et que ça va me coûter trop cher ». Comment vous faites ?
Alors quotidiennement, ça nous arrive quoi. Les listes d'attente chez les spécialistes sont très importantes, hein, plusieurs mois. Les problèmes d'accès aux spécialistes, il est quotidien. Et les problèmes des dépassements d'honoraires, c'est valable pour certaines spécialités, pas pour toutes, mais il est aussi très prenant. Alors dans ce cas-là, on essaye de convaincre le patient de s'orienter vers l'hôpital public quand il y a des dépassements d'honoraires trop importants, et leur dire bah, l'hôpital public, vous trouverez des soins adéquats, mais bon, vous ferez un sacrifice sur plusieurs mois d'attente.
Ça veut dire que dans votre cabinet de généraliste, vous faites des choses peut-être qui ne se font pas chez d'autres généralistes. Par exemple, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il vous arrive de soigner les dents.
Ah oui, ça c'est quotidien aussi.
Donc vous êtes généraliste dentiste.
Oui, attendez, je ne suis pas dentiste, non. Non, mais bon, on essaye un abcès dentaire, une carie dentaire, une gingivite, on essaye de répondre à une demande de soins de façon la plus pertinente possible, pour que les gens soient soulagés en attendant le rendez-vous chez le dentiste.
Vous soulagez, on a bien compris le message. J'ai une dernière question, docteur Patrick Le Foulon. Est-ce que vous avez été approché, que ce soit vous ou d'ailleurs votre épouse, qu'on salue par la même, par un jeune généraliste qui souhaiterait s'installer dans votre zone?
Madame, ça fait 15 ans que je cherche un remplaçant et que je n'ai pas trouvé. Et en plus, c'est deux médecins à remplacer. Mon ex-associé, qui est parti à la retraite il y a 2 ans, a cherché pendant plusieurs années un successeur et il n'a pas trouvé. Donc, je vais pas... Les combats perdus d'avance, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, on ne cherche même plus. On ne cherche même plus de successeur. La situation maintenant est acquise. On n'aura pas de successeur. J'ai des confrères qui partent à la retraite dans quelques mois, qui ont des étudiants qui viennent faire des stages dans leur cabinet. Ils ne trouvent pas de successeur, même parmi les étudiants qui viennent faire des stages dans leur cabinet.
Merci infiniment, docteur Patrick Le Foulon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Docteur Bruno Font, toujours avec nous, Front en studio, désert médical à 50 km de Paris. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage de votre confrère de Mantes-la-Jolie?
Je l'entends et évidemment je le sais, mais qu'on ne se méprenne pas. À Paris, c'est pareil. Donc il y a une illusion avec les services des SOS ou d'urgence médicale de Paris qui maintenant sont totalement débordés puisqu'ils font le travail des médecins qui sont arrêtés, qui ne sont pas remplacés. Donc évidemment qu'il y a illusion, mais dans le 5e arrondissement où j'exerce, tous les ans, on perd un ou deux médecins qui ne sont pas remplacés. Mmh. Donc la situation est apparemment moins sérieuse, mais moi, je ne trouverai pas de personne pour me succéder. Et mon confrère parle de 2500 patients. Moi, j'en avais 2500. Maintenant, j'en ai plus que 2200 parce que certains déménagent, d'autres meurent. Mais si je m'arrête aujourd'hui, je laisse sur le carreau 2200 personnes.
Suivre plus de 2000 patients, comme le font le docteur Le Foulon, le docteur Front. Vous, docteur Élise Fray, vous êtes installée depuis 5 ans. Vous avez dans votre fichier combien de patients?
Alors moi, j'ai actuellement, je n'ose même pas le dire, j'ai 800 patients médecins traitants.
Ouais.
Par contre, moi, j'ai une file active de 1300.
1300.
Parce que c'est plutôt ça, en fait, parce qu'on se relaye avec ma consoeur, comme on est associé. Certaines des médecins traitants de l'un, mais on les voit quand même. On a notre interne aussi qui est en stage avec nous, qui nous aide. Et donc, on pense qu'on assure plus que ça. Mmh. On a 1300 en tout cas qu'on voit. Et c'est parce qu'aussi, le samedi, on fait une rotation entre les villages pour les samedis. Donc moi, ça m'arrive de voir des patients qui ne sont pas du tout les miens en soins un petit peu de dépannage le week-end.
Et vous êtes aussi déjà dans la transmission, hein, docteur Fray, puisque vous êtes maître, maîtresse de stage. Je ne sais pas trop comment on dit.
Maître de stage.
Maître de stage, ça se passe comment? Ça se passe comment?
Ça se passe très bien. Là, mon interne, pour être tout à fait franche, il nous écoute avec attention. ça se passe super bien. Ça fait 4 ans qu'on le fait avec ma consoeur et nous, ça nous donne une bouffée d'oxygène parce que c'est agréable de transmettre son métier. Ça force à donner le meilleur de soi-même. C'est ce que je lui dis souvent. Je lui dis, tu vois, quand la consultation est parfois difficile, qu'il faut creuser, qu'il faut être présent, quand tu es à côté de moi et que tu me regardes faire, ça me donne encore plus envie de transmettre. Et puis après, le bonheur, c'est quand je sais qu'il le fait tout seul, quand il fait ses consultations seul, que je vois que le patient lui a fait confiance et qu'il s'est livré. Bah là, moi, c'est mon bonheur. Mmh. Et en plus, il nous permet aussi d'absorber parfois des demandes d'urgence du jour tranquillement et nous de passer en fin de consultation quand il est prêt. Donc ça, c'est bien pour notre cabinet. On a pu respirer, on répond mieux aux demandes du territoire.
Et en tout cas, on entend que tous ces invités, personne ne cède au découragement, malgré parfois ce qui se passe et qui peut être extrêmement compliqué. Docteur Fray, docteur Front, on va poursuivre notre échange. Ce sera juste après ce titre, Money Ain't Everything. C'est by Camara Junior et Vodou Sniffers.
About your words, I've been thinking about your thoughts, and the root of it all, yes, the root of it all. I know you want security. Days of uncertainty. Oh, money. Oh, money. Money ain't everything. Oh, money. Oh, money. Money ain't everything. You can tell your mama, tell your papa, your brothers and your sisters too. I know I'm not the perfect man, but I'm doing the best I can. Oh, money. Oh, money. Money ain't everything. Oh, money. Oh, money. Money ain't everything.
Priorité Santé sur RFI, profession généraliste. Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités. Il exerce à Paris depuis près de 40 ans. Docteur Bruno Front, votre livre est sous-titré « La passion d'un médecin de famille ». Alors, quel sens donnez-vous à cette expression de médecin de famille ?
Ah oui, médecin, je suis médecin généraliste, mais je suis devenu médecin de famille, j'allais dire, au jour le jour, puisque effectivement les gens m'ont fait confiance et comme je le disais tout à l'heure, ben, j'ai vu les gens avancer en âge et m'amener le nouveau-né, la grand-mère, les frères, les sœurs, les amis. Donc effectivement, c'est tout à fait étonnant et formidable de, j'allais dire, de plonger dans la vie des familles, mais sans s'y noyer.
Il faut rester à sa place, à sa juste place. Docteur Élise Frey, en ligne de Darmstadt, près de Strasbourg. Docteur Frey, avant de vous installer dans votre région de l'Alsace, vous avez notamment exercé en Bretagne, vous êtes défini alors comme médecin de campagne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, médecin de campagne ?
Ça veut dire être médecin d'un territoire plus rural, avec des contraintes géographiques avec lesquelles jongler, c'est-à-dire un hôpital qui n'est pas juste à côté, des spécialistes qui ne sont pas non plus juste à côté. Donc, une pratique que mes maîtres de stage en Bretagne m'avaient enseignée, je trouve, d'essayer au maximum de se débrouiller d'abord, de se faire confiance et de se former pour essayer de résoudre un maximum de situations nous-mêmes au cabinet, mais ensuite de savoir aussi quand est-ce qu'il faut passer la main. Et c'est aussi une forme de relation avec la patientèle, parce que je peux vous garantir qu'une patientèle rurale, quand ils viennent, c'est pas pour rien. Alors, je ne dis pas qu'il y a des gens qui viennent pour rien, mais c'est juste que ce qui m'a plu, c'était de m'occuper de ces situations-là, parfois un peu dépassées, et c'est stimulant. Et j'ai du respect aussi beaucoup pour ces patients-là. J'ai une relation que j'affectionne avec eux.
Alors, la transmission, l'organisation du travail, un regard différent puisqu'on va rejoindre la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
En ligne avec nous, docteur Olivier Lubango. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors docteur, quand vous avez su qu'on allait consacrer notre émission à la médecine générale, vous avez tenu à apporter votre témoignage. Alors première question, depuis quand est-ce que vous exercez, docteur ?
J'exerce en tant que médecin généraliste depuis 9 ans.
Depuis 9 ans, et les études de médecine, vous les avez suivies dans quelle ville du pays ?
Les études de médecine, je les ai suivies à Lubumbashi, au Katanga.
Alors, en RDC, hein, contrairement à la France aujourd'hui, la médecine générale, ça ressemble un petit peu à ce qui se passait auparavant. C'est-à-dire que ce n'est pas une spécialité, c'est en quelque sorte le tronc commun. Et vous, pourquoi, docteur Lubango, vous avez choisi en quelque sorte d'arrêter les études pour devenir généraliste, de vous arrêter à ce stade de généraliste ?
Bien sûr, Caroline, les réalités du pays et du milieu dans lequel on évolue, des fois, nous poussent à nous arrêter, surtout faute de moyens pour continuer les études de spécialisation qui coûtent trop cher dans le pays et peut-être à l'extérieur du pays.
Et finalement, vous n'êtes pas déçu par ce choix ? Être généraliste aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous va bien ?
Je dis qu'elle n'a pas déçu parce que j'exerce mon métier et surtout que bon, pour moi, la médecine est d'abord une passion avant d'être toute autre chose. Donc, je me sens à l'aise.
Une fois que vous avez été diplômé, docteur Lubango, vous avez débuté dans quelle région ? Est-ce que vous êtes resté, on va dire, en zone rurale, dans cette zone du Katanga ou vous avez déménagé ailleurs ?
J'ai débuté dans une zone rurale au Katanga, mais tout de suite, je me suis retrouvé dans une zone un peu plus reculée, à plus de 170 km de la ville de Lubumbashi, où j'ai commencé à travailler comme médecin généraliste. Et quelques temps après, j'ai été obligé de venir vers Kinshasa, où je suis installé depuis.
Alors, on va voir justement pourquoi vous vous êtes senti obligé de quitter cette région extrêmement isolée. On peut dire que dans ce contexte rural, vous faisiez absolument tout. C'était une médecine assez rudimentaire par les moyens. Ça veut dire qu'il y avait des moments où vous étiez complètement limité pour travailler, c'est ça ?
Effectivement. En milieu reculé, les médecins généralistes, il est donc les spécialistes polyvalents. Il fait tout en commençant par les consultations, les accouchements, les interventions chirurgicales et même les quelques pratiques de santé publique. Donc, vous trouvez débordé avec des moyens de diagnostic limités. Des fois, travailler dans des conditions très, très compliquées, avec des fois, vous vous trouvez dans des interventions chirurgicales sans électricité. Voilà, tout ce stress-là, toutes ces limites-là, nous ont vraiment poussé à aller dans les grandes villes où aujourd'hui on est aisé à poser un diagnostic. On rencontre des fois des malades qui maîtrisent leur pathologie et avec qui vous pouvez discuter et qui vraiment contribuent dans la prise en charge.
Et j'imagine que c'est un crève-cœur parce que c'est paradoxal, finalement on quitte les patients qui ont le plus besoin de vous parce que vous ne pouvez pas travailler correctement, c'est bien ça?
Effectivement, c'est ça. Donc, en milieu reculé, on se trouve des fois limité. Limité parce que vous n'avez même pas l'espoir d'avoir un spécialiste un jour. Et vous dites, vous travaillez à votre merci, quoi.
Vous saviez à ce moment-là, docteur Lubango, quand vous étiez dans cette zone reculée, vous étiez le seul médecin pour combien de population, pour quelle proportion de population?
Alors, effectivement, on était 3 médecins pour une agglomération de plus ou moins 500 000 habitants.
Voilà, donc 3 pour 500 000, ça donne une idée. C'est absolument impossible. On va le dire clairement, c'est impossible. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, il vous arrive de regretter cet exercice en milieu rural, docteur Lubango?
Effectivement, parce qu'il y a deux fois des malades qui décèdent pas parce que leur pathologie pouvait les amener au décès, mais c'est parce que les moyens limités et qui, des fois, poussent les médecins à se retrouver bras croisés.
On sent malgré tout chez vous que la flamme est toujours là. Est-ce que dans cette idée, vous avez un message à transmettre à celles et ceux qui vous écoutent en RDC ou peut-être ailleurs dans la région et qui peuvent, comme vous, docteur Lubango, être amenés à se poser des questions sur leur engagement pour la santé des autres? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Oui, à tous les confrères médecins et d'autres personnels médicaux qui travaillent dans des milieux trop reculés et qui, des fois, se trouvent en train de donner des plus d'efforts ou tout ce qui est de plus cher pour sauver des vies de patients, je les encourage à démarrer et à persévérer dans les médecins que nous avons choisis.
Ça veut dire ne jamais se décourager, c'est toujours ce même message. Un grand merci à vous, docteur Lubango, grand merci pour votre témoignage. Docteur Bruno Front, dans les studios de RFI, évidemment, contexte très différent. Mais est-ce que vous retrouvez malgré tout des traits communs, des points communs avec votre confrère de Kinshasa?
Ben, écoutez, il a employé le mot de la passion, et ça, c'est formidable. Je crois quand même que, quelles que soient les conditions, on fait un métier extraordinaire et on lutte pied à pied face à la réalité, face au réel, avec les moyens qui sont les nôtres, nos possibilités, nos incapacités, nos limites et nos découragements aussi. Mais franchement, je suis très heureux d'entendre et qu'on puisse partager aussi bien en Alsace qu'à Paris ou
au Congo,
cette passion et qui nous anime et qui va nous animer encore dans des conditions différentes pour ce qui est de la médecine en France. Tout est à réinventer, mais en gardant bien cet engagement, cette passion et qui nous anime.
Qui nous anime. Docteur Frey, l'encouragement de votre confrère du Congo adressé à ses pairs, votre propre engagement personnel aujourd'hui pour améliorer la situation au niveau local, on vous retrouve en Alsace, avec les années de recul, les quelques années, est-ce que vous voyez ce qui pourrait être amélioré? Bien sûr, ce n'est pas un programme politique que je vous demande, mais à votre niveau, vous, au quotidien, qu'est-ce que vous avez changé qui finalement a facilité votre vie de praticienne de médecin?
Je dirais qu'on s'adapte en permanence à l'organisation des soins. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix. Alors, il est pas toujours bien, mais on a un télésecrétariat qui permet de prendre les rendez-vous pour ne pas être interrompu en permanence. Donc, on est pleinement disponible pendant la consultation. Mais on ajuste en permanence aussi l'offre qu'on a de mettre plus de créneaux d'urgence, par exemple, en hiver et un peu moins en été où la demande est moins forte. Tout ça, c'est de l'organisation basique. Après, je vous avoue qu'il faut discuter en permanence avec tous les acteurs de terrain. Nous, on est à la fois le premier et le dernier recours. Donc, il faut absolument dialoguer avec les structures qu'on a, par exemple les centres de psychologie, ceux qui s'occupent du maintien de la personne âgée. Il faut savoir comment ils fonctionnent pour être efficace. et aller plus vite quand ça l'exige, ou peut-être expliquer pourquoi il faudra attendre un peu quand ce n'est pas possible. Mais moi, les perspectives d'amélioration que je vois, c'est qu'il faut absolument réfléchir à une organisation territoriale, mais calibrée. Ça dépend où est-ce qu'on exerce, ça dépend des besoins des patients, ce n'est pas les mêmes. Et ensuite, il faut davantage de moyens dans la santé et dans toutes les structures auxquelles nous, on adresse les gens aussi. Donc, en fait, nous, on ne peut pas demander une amélioration pour nous si on n'améliore pas tous les autres acteurs derrière. C'est ça que je vois, en fait.
C'est la santé publique. Docteur Bruno Front, le choix de la médecine générale, les consultations, les visites, tous ces changements aussi que vous avez vus, j'imagine qu'il y a le pour et il y a le contre, notamment l'innovation technologique, l'intelligence artificielle. Vous accueillez ça de quelle manière ?
Ben, c'est de toute façon, on ne pourra pas y échapper.
Ah non, mais je ne vous dis pas de dire que vous n'êtes pas d'accord, mais
non,
vous voyez ça
donc,
comment ?
Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut utiliser toutes les techniques. Bon, la téléconsultation qui est apparue très grandement avec la Covid, mais il faut que toujours l'être humain que nous sommes et les patients considèrent que c'est une rencontre en chair et en os. Mmh. C'est un corps qui parle avec des mots MOTS et MAUX. Donc, attention à l'IA et en même temps, c'est utile, mais il faut qu'on tienne encore la main d'une certaine façon.
Parce que vous disiez des rencontres avec une humanité, l'intelligence artificielle, aussi performante qu'elle soit. Il y a des compétences, mais c'est pas l'humanité.
Ben, il y a le fantasme que l'intelligence artificielle serait plus efficace et plus empathique que les médecins humains eux-mêmes. Donc, on verra.
Vous l'avez dit, fantasme. Docteur Élise Frey, même question pour vous en quelque sorte en conclusion sur la cohabitation entre le soignant et la machine, parce que c'est aussi une réalité pour l'ensemble des médecins aujourd'hui. Consultation face à face distancielle. En début d'émission, on a d'ailleurs vanté les mérites de la visite à domicile. Donc là, on est très très loin du distanciel, puisque c'est vous qui prenez un véhicule pour aller joindre la personne ou vos jambes. C'est quoi votre regard, vous, sur cette technologie qui arrive dans votre métier pour le meilleur et pour le pire ?
Ben, mon regard, il est quand même prudent. Hein. Je pense qu'il y a des outils qu'il faut savoir maîtriser. Il ne faut pas être réfractaire. Je pense que il faut savoir maîtriser ça pour donner des informations. Mais franchement, la Covid, l'exercice que j'ai connu où on a été obligé de faire de la téléconsultation, ça m'a surtout laissé extrêmement sceptique. Il n'y a rien pour moi qui remplace la rencontre entre un humain et un humain. Et ça doit vraiment être privilégié. Maintenant, dans certaines situations de conseils qu'on peut donner de gens qu'on connaît bien, il ne faudrait peut-être pas se passer de cet outil si ça permet de gagner du temps et de répondre à une demande supplémentaire. Mais pour moi, ça ne doit pas être supplémenté et ça ne doit pas se substituer à un médecin. Et c'est pareil aussi, il ne faudrait pas croire qu'un outil partagé, informatique, magnifique, ça soit la panacée. C'est important qu'on partage des informations. Mais si c'est pour passer davantage de temps administratif au nom d'une transparence ou d'une collaboration, alors qu'en fait, ça nous enlève du temps avec les patients, c'est pas non plus la meilleure chose qui soit.
Du temps, des bras, du soin, on a compris. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux, docteur Élise Frey en Alsace et vous, docteur Bruno Front, en studio. Je rappelle le titre de ce livre, Tranche de vie, des rencontres qui soulagent. C'est plutôt réjouissant à lire, je vous le dis, parce que les gens disaient, il faut avoir un livre médical. Oh là, non, c'est tout le contraire. Ça se lit vraiment comme un journal du passé et du présent. Toute une vie pour eux, aux éditions de l'Iconoclaste. L'activité physique, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, médecin du sport, on va aborder justement ce qui se passe avant un petit cours de gym pour aborder cette séance dans les meilleures conditions. Parfois, on prend une collation, bien sûr, avant pour apporter à l'organisme le carburant nécessaire. On va voir avec vous, docteur Sen, quoi manger, quoi boire avant cette séance de sport. Est-ce que d'abord, c'est indispensable de prendre quelque chose à manger avant de se mettre au travail?
Et oui, absolument, parce que lorsqu'on va faire du sport, évidemment, on va faire une dépense énergétique. On a donc besoin de glucides disponibles, directement disponibles pour l'exercice, disponibles dans le sang. Les vitamines, les minéraux sont également intéressants parce que ça permet de faire mieux fonctionner à ce moment-là le corps. Le problème, c'est que souvent, lorsqu'on va faire une séance de sport, c'est on va choisir le midi, dans la pause du midi, ou alors le soir, juste après le travail. Et là, eh bien, les réserves de notre organisme, les glucides directement disponibles dans le sang, eh bien, ne sont pas suffisants. Résultat, on peut avoir une baisse d'énergie d'énergie et des capacités physiques. Ça dépend également du type d'effort qu'on va réaliser. Si on fait des efforts très fractionnés, tennis, volley par exemple, là aussi les besoins glucides augmentent et donc il est très important d'en avoir de disponibles dans le sang. Donc avant, pendant, après l'effort, il faudra apporter des éléments et notamment de la boisson. De la boisson pourquoi ? Parce que lorsqu'on va faire des efforts, on va perdre de l'eau à travers la sueur et donc là, il faudra absolument le compenser. Donc apporter des glucides et de l'eau sont deux choses indispensables évidemment quand on fait du sport.
Donc on prépare son sport avec son équipement sportif, mais aussi qu'est-ce qu'on met dedans côté nourriture, côté boisson ? On commence avec ce que l'on peut, ce que l'on doit, ce qu'il est conseillé de manger avant la séance de sport.
Le mieux, c'est d'opter par exemple pour des produits simples comme des compotes ou des boissons de l'effort, et on verra une recette tout à l'heure de boissons de l'effort, ou pourquoi pas des barres de céréales, mais des barres, de vraies barres de céréales, pas celles qui sont à base de chocolat ou autres. Ça, ce ne sont pas des bonnes barres de céréales. Et puis, il y a des aliments digestes et sains qui peuvent être utilisés, comme les fruits. Les oranges, la banane ou encore la papaye sont des fruits qui peuvent tout à fait être utilisés pour pouvoir faire du sport. Et puis, les fruits séchés, comme la mangue, les figues, les dattes, sont également d'excellents fruits séchés à forte teneur énergétique, avec beaucoup donc de glucides qui apportent également des minéraux, donc parfaits pour le sportif, comme le potassium ou le magnésium.
Alors, bien sûr, il faut s'hydrater, boire aussi, et là, vos conseils ?
De l'eau, encore de l'eau. L'eau suffit effectivement si on ne dépasse pas une heure d'activité physique et on n'apportera à ce moment-là des glucides que si on dépasse cette heure ou si on a vraiment une activité physique extrêmement intense.
Et attention, voici la célèbre recette du docteur Jean-Marc Sen qui s'appelle la boisson de l'effort. Votre potion magique, docteur Sen.
Absolument, boisson d'effort à faire soi-même qui ne coûte pas cher. On prend une eau gazeuse à moitié de volume. Donc, par exemple, ça peut être 1 demi-litre. On prend à moitié de volume de jus de fruits, le jus de fruits de votre jus de fruits préféré, bien évidemment, et vous mettez 0,5 g par litre de sel, donc une pincée. Autant dire que c'est une pincée de sel. On mélange tout ça, comme ça, ça dégazéifie, bien sûr, avec la boisson gazeuse, remuer l'ensemble, et on se rend compte qu'on a une boisson de l'effort parfaite. On a de l'eau, on a des glucides, on a des sels minéraux, on a des oligo-éléments, on a même du bicarbonate avec l'eau gazeuse, et donc ça, c'est absolument parfait. On peut boire ça 2 à 3 heures avant la séance, évidemment, par petites gorgées. On s'arrête 10 minutes avant pour pas avoir un inconfort digestif. Et là, c'est absolument parfait pour pouvoir faire son effort.
Alors, il y a les conseils, il y a aussi certains aliments qu'il vaut mieux éviter avant la séance de sport.
Ah, les aliments gras, qu'il s'agisse de bons ou mauvais gras, on évite parce que les lipides ont besoin d'un temps relativement long pour être digérés. Ça entraîne un inconfort gastrique, donc ça, c'est pas une bonne idée quand on veut faire du sport. On évite également le grignotage sucré avant une séance de sport parce que là, ça a un effet paradoxal. On va faire monter la glycémie de manière extrêmement importante. Résultat, l'organisme met en place des processus pour faire baisser la glycémie, sauf que quand on contracte les muscles, cette glycémie s'effondre et on se retrouve avec une hypoglycémie de début d'exercice. C'est pas très drôle, c'est fatigant. Et puis, le café, le thé, les sodas, évidemment, les boissons qui contiennent de la caféine, on évite également parce que ça a tendance à déshydrater, surtout quand on en prend beaucoup. Et puis, on évite l'alcool, évidemment, parce que ça déshydrate et puis on n'est pas très bien coordonné quand on va faire du sport dans ces cas-là. Et puis, même si c'est pas une boisson ni un aliment, on n'oublie pas qu'on ne fume jamais avant, pendant ou après le sport. C'est très dangereux pour le cœur.
Voilà ces conseils. Merci beaucoup Dr Sen pour tous ces conseils. On en retrouve beaucoup d'autres dans votre livre Le sport, je me lance aux éditions InPress. On se dit à très bientôt dans Priorité Santé.
Et à votre santé.
Et notre émission touche à sa fin. On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.